France Culture.
Mes amis, d'Emmanuel Bove. Extrait.
Quand je m'éveille, ma bouche est ouverte. Mes dents sont grasses. Les brosser le soir serait mieux, mais je n'en ai jamais le courage. Des larmes ont séché au coin de mes paupières. Mes épaules ne me font plus mal. Des cheveux raides couvrent mon front. De mes doigts écartés, je les rejette en arrière. C'est inutile. Comme les pages d'un livre neuf, ils se dressent et retombent sur mes yeux. En baissant la tête, je sens que ma barbe a poussé. Elle pique mon cou. La nuque chauffée, je reste sur le dos, les yeux ouverts, les draps jusqu'au menton pour que le lit ne se refroidisse pas. Le plafond est taché d'humidité. Il est si près du toit. Par endroits, il y a de l'air sous le papier tenture. Mes meubles ressemblent à ceux des brocanteurs sur les trottoirs. Le tuyau de mon petit poêle est bandé avec un chiffon. Comme un genou. En haut de la fenêtre, un store qui ne peut plus servir pend de travers. À peine sorti des draps, je m'assois sur le bord du lit. Mes jambes pendent à partir du genou. Les pores de mes cuisses sont noirs. Les ongles de mes doigts de pied longs et coupants. Un étranger les trouverait laids. Je me lève. La tête me tourne, mais ce vertige disparaît rapidement. Quand il y a du soleil, un nuage de poussière, échappé du lit, brille une minute dans les rayons, comme de la pluie. D'abord, je mets mes chaussettes, sinon des allumettes se colleraient à la plante de mes pieds. En tenant une chaise, je revais mon pantalon. Avant de me chausser, j'examine les semelles de mes souliers, pour leur assigner une certaine durée. Ensuite, je pose sur le seau de toilette ma cuvette, graduée par l'eau sale de la veille. J'ai la manie de me laver courbée, les jambes écartées, la bretelle tenant au bouton de derrière seulement. La même serviette me sert pour la figure et les mains. Si je devenais riche, ce serait la même chose. Une fois lavé, je me sens mieux. Je respire du nez. Mes dents sont distinctes. Mes mains resteront blanches jusqu'à midi. Je mets mon chapeau. Les bords en sont gondolés par la pluie. Le nœud du ruban est à la mode, il se trouve derrière. Avant de sortir, je jette un coup d'œil sur ma chambre. J'endosse mon par-dessus, assez difficilement car la doublure des manches en est décousue. Je mets mon livret militaire, ma clé, mon mouchoir sale, qui craque quand je le déploie, dans la poche gauche. J'ai une épaule plus haute que l'autre, le poids de ces objets doit rabaisser celle-là. La porte ne s'ouvre pas entièrement. Pour sortir, je me boutonne et passe de biais. J'habite à Montrouge. Le matin, la rue est calme. Une concierge balaie devant sa porte seulement. En passant près d'elle, je respire du nez, à cause de la poussière. Par les fenêtres entrebâillées, j'épie les rez-de-chaussée. Je vois des plantes vertes qui viennent d'être arrosées, des douilles d'obus rutilantes et des lames de parquet étroites, cirées, qui font des zigzags. Quand mon regard rencontre celui d'un locataire, je suis gêné. Parfois, un linge blanc bouge derrière un rideau à hauteur d'homme. Quelqu'un se lave. Je prends mon café à côté de chez moi, dans un estaminet. Le patron est aimable. Il est petit, comme un soldat en queue de section. Il a un œil de verre qui imite si bien l'œil vrai que je ne sais jamais quel est le bon. Ce qui est ennuyeux, il me semble qu'il se vexe quand je regarde son œil faux. Il m'a assuré qu'il avait été blessé à la guerre. Pourtant, on dit qu'il était déjà borgne en 1914. Le brave homme se plaint continuellement. Le commerce ne va plus. Il a beau essuyer les verres devant les clients, il a beau dire « Merci, monsieur, au revoir, monsieur, laissez la porte », personne ne vient. Il voudrait que la guerre fût oubliée. Il regrette l'année 1910. À cette époque, paraît-il, les gens étaient honnêtes, sociables, l'armée avait de l'allure, on pouvait faire du crédit, on s'intéressait aux problèmes sociaux. Quand il parle de tout cela, ses deux yeux, le vrai et le faux, se mouillent et ses cils s'unissent par petites mèches. L'avant-guerre a sombré si vite qu'il ne peut croire qu'elle n'est plus qu'un souvenir. Souvent, je m'arrête devant une mercerie où les gamins du quartier achètent des amorces. Dehors, sur une table, il y a des journaux pliés dont on ne peut lire que la moitié du titre. Seul l'Excelsior pend comme une nappe. Je regarde les images. Les clichés trop grands représentent toujours la même chose. Un ring, un revolver avec ses douilles. Dès que la mercière me voit arriver, elle sort de sa boutique. Une odeur de jouets peints et de coton neuf l'accompagne. Je lui demande comment elle se porte. Ce serait trop impoli de ne pas me répondre. Aussi, elle branle la tête. La porte qu'elle a laissée ouverte me fait comprendre qu'elle attend mon départ. Un jour, j'ai soulevé le journal pour lire de petits caractères. Elle m'a dit d'un ton mauvais « Il coûte 3 sous ». J'eus envie de lui apprendre que j'avais fait la guerre, que j'étais gravement blessé, que j'avais la médaille militaire, que je touchais une pension. Mais je compris tout de suite que c'était inutile. En partant, j'ai entendu la porte qui se refermait avec un bruit de garde-boue. La solitude me pèse. J'aimerais avoir un ami, un véritable ami, ou bien une maîtresse à qui je confierais mes peines. Quand on erre toute une journée sans parler, on se sent là le soir dans sa chambre. Pour un peu d'affection, je partagerais ce que je possède. L'argent de ma pension, mon lit. Je serais si délicat avec la personne qui me témoignerait de l'amitié, jamais je ne la contrarierais. Tous ses désirs seraient les miens. Comme un chien, je la suivrais partout. Elle n'aurait qu'à dire une plaisanterie, je rirais. On la tristerait, je pleurerais. Ma bonté est infinie. Pourtant, les gens que j'ai connus n'ont pas su l'apprécier. Pas plus Billard que les autres. J'ai connu Henri Billard dans un rassemblement, devant une pharmacie. Les rassemblements de la rue me causent toujours une appréhension. La crainte de me trouver devant un cadavre en est la raison. Cependant, un besoin qui n'est pas de la curiosité commande à mes pieds. Prêt à fermer les yeux, je me ferai un passage malgré moi. Aucune exclamation des badauds ne m'échappe. J'essaie de savoir avant de regarder. Un soir, vers 6 heures, je me trouvais dans un attroupement si près de l'agent qui le maintenait que je discernais le bateau de la ville de Paris sur ses boutons argentés. Comme en tout lieu où l'on se groupe, des gens poussaient par derrière. Dans la pharmacie, à côté de la bascule, un homme était assis sans connaissance, les yeux ouverts. Il était si petit que sa nuque reposait sur le dossier de la chaise et que ses jambes pendaient comme une paire de bas qui sèchent, la pointe vers le sol. De temps en temps, ses pupilles faisaient le tour des yeux. Un filet de salive coulait sous son menton. Le pauvre homme allait certainement mourir. Je lorgnais mon voisin, il frisait sa moustache. Un bouton doré fermait le col de sa chemise. Maigre, nerveux, petit, il m'était sympathique. À moi, grand, sentimental et indolent. La nuit tombait. Les becs de gaz déjà allumés n'éclairaient pas encore. Le ciel était d'un bleu froid. Il y avait des dessins géographiques sur la lune. Mon voisin s'éloigna sans me saluer. Je crus deviner à son attitude indécise qu'il espérait que je le rejoindrais. J'hésitais une seconde, comme tout homme l'aurait fait à ma place, car en somme, je ne le connaissais pas. La police pouvait très bien le rechercher. Puis, sans réfléchir, je le rattrapai. La distance avait été si courte que je n'eus pas le temps de préparer ce que j'allais dire. Aucun mot ne sortit de ma bouche. Quant à l'inconnu, il ne se souciait pas de moi. Il marchait drôlement, en posant le talon avant la semelle. Une cigarette tenait à son oreille. Je m'en voulus de l'avoir suivi, mais je vis seul, je ne connais personne. L'amitié serait pour moi une si grande consolation. Maintenant, il m'était impossible de le lâcher puisque nous cheminions l'un près de l'autre dans la même direction. « As-tu une cigarette ?» me demanda-t-il tout à coup. Instinctivement, je jetai un coup d'œil sur son oreille, mais pour ne pas le froisser, je baissai vite les yeux. À mon avis, il aurait d'abord dû fumer sa cigarette. Il est vrai qu'il pouvait l'avoir oubliée. Je lui donnai une cigarette. Il l'alluma, sans s'enquérir s'il m'en restait, et continua de marcher. Je le suivais toujours, ennuyé devant les passants par son indifférence. J'aurais voulu qu'il se fût penché vers moi, qu'il m'eût interrogé, ce qui m'aurait permis de prendre une attitude. La cigarette offerte par moi avait renforcé nos relations. Je ne pouvais plus m'en aller. D'ailleurs, je préfère supporter un ennui que de faire une impolitesse. « Viens boire un verre, » me dit-il en s'arrêtant devant un débit de vin. Je refusais, non pas par politesse, mais parce que je craignais qu'il ne payât pas. On m'avait déjà joué ce tour, il faut être méfiant, surtout avec des étrangers. Il insista. J'avais un peu d'argent au cas où il se déroberait. J'entrai. Le plafond de la salle était bas comme celui d'un wagon. Sur la caisse, il y avait des billets de réduction pour un cinématographe. Mon compagnon demanda un bock. « Et toi, que prends-tu ? » « Comme vous. » J'aurais préféré demander une liqueur, mais ma timidité imbécile m'en empêcha. Mon voisin avala une gorgée de bière, puis, essuyant sa moustache pleine de mousse, il me questionna. « Comment t'appelles-tu ? » «
Bâton Victor, » répondis-je, comme au régiment.
« Bâton ? »
« Oui.
»« Quel nom ! » dit-il en faisant le simulacre de fouetter un cheval. Cette plaisanterie ne m'était pas étrangère. Elle m'étonna de la part d'un homme qui paraissait s'y réserver.
« Et vous, comment vous appelez-vous ? »
« Henri Billard. » La peur de le vexer ne m'eût pas retenu, j'aurais, moi aussi, ridiculisé son nom en faisant semblant de jouer au billard. Mon compagnon ouvrit un porte-monnaie et paya. N'ayant pas soif, j'eus de la peine à finir mon bock. Soudain, l'intention d'offrir quelque chose me vint à l'esprit. Je résistais. Après tout, je ne connaissais pas Billard. Mais, à la perspective de me trouver seul dans la rue, je faiblis. Je fis le vide dans mon cerveau afin qu'aucune considération ne me retînt, et d'une voix que j'entendais comme si je parlais seul, je dis « Monsieur, buvons ce que vous voulez. » Il y eut un silence. Anxieux, j'attendais la réponse, appréhendant un oui, appréhendant un non. Enfin, il me répondit « Pourquoi te ferais-je dépenser de l'argent ? Tu es pauvre, toi. » Je balbutiais pour insister. Ce fut inutile. Billard sortit lentement, en balançant les bras, en boitant un peu, sans doute parce qu'il était resté immobile. Je l'imitais. Boitant, sans raison.
Au revoir, bâton.
Je n'aime pas quitter une personne avec qui je me suis entretenu sans savoir son adresse ni où la revoir. Lorsque malgré moi cela arrive, je vis pendant plusieurs heures dans une sorte de malaise. La pensée de la mort, que d'habitude je chasse rapidement, me hante. Cette personne, en s'en allant pour toujours, m'a rappelé, j'ignore pourquoi, que je mourrais seul. Je regardais tristement Billard. « Allons, au revoir, bâton. »«
Vous partez ?»«
Oui. »« Je vous reverrai peut-être par ici ?»«
Mais oui. »
Je rentrai tout pensif. Pour refuser ce que je lui avais offert, il fallait que Billard eût réellement bon cœur. Certainement, il m'aimait et me comprenait. Ils sont si rares, ceux qui m'aiment un peu et qui me comprennent. Le lendemain, en m'éveillant, je pensais tout de suite à Billard. Je résumais dans mon lit les phases de notre rencontre. Que je serais heureux s'il devenait mon ami. Nous sortirions le soir, on mangerait ensemble. Quand l'argent me manquerait, il m'en prêterait, et réciproquement, bien entendu. L'existence est si triste lorsqu'on est seul et qu'on ne parle qu'à des gens qui vous sont indifférents. La journée passa lentement. Malgré le grondement de la ville, j'entendis sonner toutes les heures, comme la nuit quand on ne dort pas. Je vivais dans l'attente. L'après-midi, je me promenais dans un jardin. Comme je connais les chiffres romains, je m'amusais à calculer l'âge des statues. Chaque fois, j'étais déçu, elles n'avaient jamais plus de 100 ans. La poussière ne tarda pas à ternir le cirage de mes souliers. Les cerceaux des enfants tournaient sur eux-mêmes avant de tomber. Sur les bancs, des gens étaient assis, dos à dos. Tout ce que j'observais ne distrayait que mes yeux. Dans mon cerveau, il y avait Billard. Le soir arriva enfin. Je repris les rues que nous avions suivies, moi et Billard. La pharmacie était déserte. Cela me causa un effet étrange, car dans mon esprit, elle était associée à un encombrement. Aucune raison ne m'eût empêché de flâner plus tôt aux abords du café Jacob, mais je savais qu'en revoyant Billard à la même heure que la veille, j'aurais moins l'air de le rechercher. Il supposerait que je passais dans son quartier chaque jour vers 6 heures. L'estaminet n'était pas loin. Mon cœur, en battant, me faisait sentir la forme de mon sein gauche. À chaque instant, j'essuyais mes mains moites sur mes manches. Une odeur de sueur s'échappait par ma veste ouverte. Je m'imaginais que le patron se trouverait derrière son comptoir et que Billard boirait un boc, comme hier. Sur la pointe des pieds, la main contre la glace pour ne pas perdre l'équilibre, je vis, au-dessus d'un rideau rouge, l'intérieur du café Jacob. Billard n'était pas là. J'en ressentis du dépit. Je m'étais figuré que, tenant à moi, il serait revenu avec l'espoir de me parler. Je regardai la pendule d'une boulangerie. Elle marquait 6 heures. Tout n'était pas perdu. Billard pouvait travailler. Je m'éloignai en prenant la décision de revenir 20 minutes plus tard. Certainement, il serait là. Nous bavarderions. J'avais tant de choses à lui dire. Pour tuer le temps, j'errais sur un boulevard. Pendant une demi-heure, je regardais le prix des souliers, des cravates, des chapeaux. Je m'arrêtais aussi devant les bijouteries. Les étiquettes minuscules étaient à l'envers. Il est impossible de connaître le prix des montres et des bagues sans entrer dans les bijouteries. Maintenant, Billard devait m'attendre, car au fond, il tenait à moi. Sinon, il ne m'eût pas offert un boc. Craignant subitement qu'il ne fût venu et reparti, je me hâtai de retourner au café Jacob. J'étais content qu'il fît nuit. Grâce à l'obscurité, le patron et les clients ne me verraient pas. Je les examinerais de la rue, et si Billard n'était pas là, il ne lirait pas ma déception sur mon visage. Les 100 mètres qu'il me restait à parcourir me semblèrent interminables. Enfin, je me trouvai devant le bar. Après avoir allumé une cigarette, je lorgnai l'intérieur du cabaret. Billard n'était pas là. J'eus un éblouissement qui tripla dans mes yeux chaque passant, chaque maison, chaque voiture. Je comprends que des gens eussent pu rire de mon émotion. Rien de ce qui s'était passé n'aurait frappé un autre que moi. Je suis trop sensible, voilà tout. Une minute après, je m'éloignais complètement abattu. Au lieu de réagir, je tâchais à prolonger ma tristesse. Je m'enfermais en moi-même, me faisant plus petit, plus misérable que je ne le suis. Je trouvais ainsi une consolation à mes misères. Billard n'était pas venu. Il en a toujours été ainsi dans ma vie. Personne n'a jamais répondu à mon amour. Je ne demande qu'à aimer, qu'à avoir des amis. Je demeure toujours seul. On me fait l'aumône, puis on me fuit. La chance ne m'a vraiment pas favorisé. J'avalais ma salive pour ne pas pleurer. J'allais, droit devant moi, une cigarette encore sèche aux lèvres, lorsque je vis un homme qui stationnait près d'un bec de gaz. Je crus d'abord que c'était un mendiant, car ceux-ci sont souvent arrêtés. Soudain, un cri aussi involontaire qu'un « ok » sortit de ma bouche. L'homme, c'était Billard. Il avait un pardessus fripé comme en ont les noyés. Près du réverbère, à la clarté pâle de cette lumière en plein air, il roulait une cigarette.
« Bonjour, monsieur Billard !»
Il se retourna, me regarda et ne me reconnut pas, ce qui me contraria. « C'est moi, Bâton !» Alors il lécha le papier de sa cigarette dans la longueur. J'attendis. Et afin qu'il ne remarquât pas que je fumais une cigarette toute faite, je l'éteignis contre le mur et la mis dans ma poche. « Où manges-tu ? » me demanda-t-il.
« Où je mange ? » ?»«
Oui. »«
N'importe où ?»«
Viens avec moi. Je connais un restaurant à bon marché. »
Je le suivis.
La satisfaction d'avoir retrouvé Billard m'ôtait l'appétit. Bien que je fusse harcelé par l'envie de parler de moi, de mes voisins, de ma vie, aucun mot ne sortait de ma bouche. La timidité me paralysait tout entier, sauf les yeux. Il est vrai que je n'étais pas très lié avec mon compagnon. Lui aussi, sans doute, avait mille choses à me conter, mais comme moi, il n'osait pas. Sous des apparences rudes, c'était insensible.
« J'ai acheté un camembert, dit-il. Nous le partagerons. Je dîne en général avec ma femme. Aujourd'hui, elle est absente. »
Je le regardais. Le papier de sa cigarette ne brûlait pas.
« Vous êtes donc marié ?»«
Non, en ménage seulement. »
Ma bonne humeur tomba tout d'un coup. J'en voulais à Billard qu'il eût une femme. Une amitié solide ne pouvait plus nous unir puisqu'une tierce personne la troublerait. J'étais jaloux. Aussi, pourquoi avais-je suivi cet inconnu ? Il m'avait désorienté. À cause de lui, la solitude me pèserait davantage. Toutes ces réflexions ne m'empêchèrent pas de me raccrocher à un dernier espoir. Peut-être sa maîtresse n'était-elle pas belle ? Il aurait suffi qu'elle fût laide pour que je me remisse. « Est-elle jolie ? » demandai-je en m'efforçant d'avoir l'air distrait. Avec l'assurance des gens indélicats, il me répondit qu'elle était superbe et qu'elle possédait, malgré ses 18 ans, deux seins de femme. Il me montra même la place avec ses mains arrondies. Cette fois, je n'eus plus qu'une idée. Partir. L'injustice du sort était vraiment trop grande. Billard avait une verrue, des pieds plats, et on l'aimait. Tandis que je vivais seul, moi, plus jeune et plus beau. Jamais nous ne pourrions nous entendre, il était heureux. Par conséquent, je ne l'intéressais pas. Il valait mieux que je m'en allasse. Pourtant, je ne me résolvais pas à quitter mon compagnon.
« Qu'as-tu ? Es-tu triste ? »
questionna-t-il. Je le regardais avec reconnaissance. « Oui, je suis triste. » J'attendais des plaintes, des confidences. Je fus déçu. Il me conseilla de réagir. Nous nous arrêtâmes devant un restaurant. La peinture de la devanture se décollait. Sur une glace, les passants lisaient cette phrase « On peut apporter son manger ».«
Entre !» me dit Billard.
« Non, vous le premier. » de longues tables et quelques-uns de ces bancs de réfectoire qui se lèvent à un bout quand on s'assoit, meublaient la salle. La fumée de tabac faisait des spirales comme du sirop dans un verre d'eau. La trappe de la cave trembla sous nos pas. Devant chaque client se dressaient un litre et un verre. On eût pu, avec un couteau, faire de la musique. Nous nous installâmes, l'un en face de l'autre. Billard essaya de sortir le camembert de sa poche. Celle-ci était étroite, il dut se servir de ses deux mains. Puis, en habitué, il appela la patronne par son petit nom.
« Maria, deux chopines et du pain. »«
Une chopine, c'est trop pour moi, » dis-je, un peu tard.
« Je paye, je paye. »
« Mais vous n'êtes pas riche. »
« Une fois n'est pas coutume. »
Je n'avais pas l'intention d'abuser de la bonté de mon voisin. C'est pourquoi ce « une fois n'est pas coutume » me choqua. Je suis très susceptible. Ne trouverai-je donc jamais un homme bon et généreux ? Ah, si j'étais riche, comme je saurais donner. Un chien qui n'avait qu'un morceau de queue, vint flairer mes doigts. Je le repoussai, mais il recommença, avec tant d'obstination que j'en rougis. Mes doigts n'avaient pourtant aucune odeur. Heureusement, la patronne arriva, le goulot des bouteilles entre les doigts et le pain sous le bras. Elle chassa à coups de pied cette sale bête.
Billard tâta le camembert de l'index et le coupa en deux. Il m'en donna une moitié, la plus petite.
Nous mangeâmes, lentement, à cause du papier transparent qui collait sur le fromage. Quand Billard buvait, je l'imitais. Par politesse, je faisais en sorte que le niveau de mon vin ne baissât pas plus vite que le sien. Je n'ai pas l'habitude de boire, aussi je ne tardais pas à être gai.
« Vous me semblez avoir bon cœur, monsieur Billard, » dis-je, en constatant que le vin avait changé ma voix.
« Oui, j'ai bon cœur.
Il y a si peu de gens qui comprennent la vie. »«
J'ai bon cœur, » continua Billard, qui suivait son idée, « mais il faut être prudent. Sinon, on abuse de votre bonté. Vois-tu, bâton, c'est pour un camarade que j'ai perdu ma place. » Ces paroles me déplurent encore, et pour trouver un point sur quoi nous eussions pu être d'accord, je sautai d'un sujet à l'autre. « J'ai été à la guerre. » Je sortis mon portefeuille et lui montrai mon livret militaire avec mon nom en grosses lettres sur la couverture.
« Moi aussi j'ai été à la guerre, » me dit-il en me montrant à son tour des papiers.
Il les déplia, il me mit dans la main sa plaque d'identité, une mèche de cheveux aplatie par un long séjour dans le portefeuille, sa photographie en soldat de l'active à côté d'un meuble, en poilu à côté d'un seau, et celle d'un groupe de fantassins au milieu desquels il y avait un écriteau avec ces mots « Les gars de la première CM, faut pas s'en faire !»
« Tu vois celui-là ?»
Et il posa son index sur la tête d'un soldat.
« Oui, je vois. »«
Eh bien, il est mort. Celui-là aussi. » Je faisais semblant de m'intéresser à tout cela, mais rien ne m'ennuie autant que les portefeuilles des autres et que ces photographies au verso crasseux. Pourtant, combien en ai-je vu pendant la guerre de portefeuilles et de photographies ?«
J'étais à Saint-Mihiel, » dis-je pour parler de moi.
Au lieu de m'écouter et de poser des questions,
« Moi aussi j'y étais. »
Je suis blessé et réformé. Je montrai l'éclat d'obus qui m'avait blessé.
« Tu vis seul ?»
me demanda Billard en repliant ses papiers.
« Oui. »
« On s'ennuie. »
« Oh oui. Surtout moi, qui suis si sensible. La vie de famille m'aurait plu. Tenez, vous, monsieur Billard, si vous étiez mon ami, je serais heureux. Tout à fait heureux. La solitude, la misère me dégoûtent. Je voudrais avoir des amis. » Travailler, vivre enfin.
As-tu une maîtresse ?
Non.
Pourtant, les femmes ne manquent pas.
Ah oui, mais je n'ai pas d'argent. Une maîtresse me donnerait des soucis, il faudrait que je mise du linge propre pour les rendez-vous.
Allons, allons, tu t'imagines que les femmes font attention au linge ?
Mais c'est difficile de trouver une femme jolie.
Pas aujourd'hui. La mienne a quitté ses ardents pour moi.
Je suis heureux avec cette jeunesse.
Je voulais un ami malheureux, un vagabond comme moi, envers qui on n'est tenu à aucune obligation. J'avais cru que Billard était cet ami, pauvre et bon, je m'étais trompé. À chaque instant, il m'entretenait de sa maîtresse, ce qui me plongeait dans une grande mélancolie. « Bâton, viens demain chez moi après le dîner, tu verras la petite. J'habite rue Gillecoeur, hôtel du Cantal. » J'acceptais, parce que je n'osais refuser. Je sentais bien que je n'aurais jamais le courage de rendre visite à des gens heureux. Mes relations finiront-elles toujours de façon ridicule ? Je passais la journée du lendemain à me répéter que je n'irais pas chez Billard. Il était capable de caresser sa maîtresse devant moi. Elle s'assiérait sur ses genoux. Elle lui chatouillerait l'oreille. Ces marques d'amitié m'eussent exaspéré. Les amoureux sont égoïstes et impolis. Le soir, après le dîner, je flânais sur le boulevard Saint-Germain. Les magasins étaient éteints, des lampes à arc éclairaient le feuillage des arbres, des tramways longs et jaunes glissaient sans roues, comme des boîtes. Les restaurants se vidaient. 8 heures sonnèrent en l'air. Quoique Billard ne fût pas l'ami rêvé, je ne cessais de songer à lui. Mon imagination crée des amis parfaits pour l'avenir, mais en attendant, je me contente de n'importe qui. Il était possible que sa maîtresse ne fût pas belle. J'ai remarqué que les femmes que l'on ne connaît pas, on se les représente toujours belles. Au régiment, quand un soldat me parlait de sa sœur, de sa femme, de sa cousine, je songeais tout de suite à une jeune fille superbe. Ne sachant à quoi employer mon temps, je me dirigeais vers l'hôtel du Cantal. En cours de route, j'eus bien la pensée de faire demi-tour, mais la perspective d'une soirée vide chassa vite cette faible intention. Il était trop tôt pour aller chez Billard. Je n'aime pas surprendre les gens car ils se figurent que l'on cherche à savoir ce qu'ils mangent. Je mis à la bouche ma dernière cigarette, bien que j'eusse voulu la conserver pour le lendemain au matin. Quoique je possédasse des allumettes, je préférais demander du feu à un passant. Plus loin, sur ma route, un homme fumait. En me découvrant, je m'adressai à lui. Il me tendit sa cigarette et, pour ne pas trembler, appuya son doigt contre ma main. Ses ongles étaient soignés. Une bague cachée ornait son annulaire. Sa manchette descendait jusqu'au pouce. Après l'avoir remercié 3 ou 4 fois, je m'en allais. Longtemps, je songeais à cet inconnu. Je cherchais à deviner ce qu'il pensait de moi et si, lui aussi, faisait les mêmes réflexions. On tient toujours à faire bonne impression sur les gens que l'on ne connaît pas. Au-dessus de la porte de l'hôtel du Cantal, il y avait une boule blanche avec des majuscules, comme un ballon du Louvre. J'entrai. Je frappai au carreau doucement afin de ne pas le casser. Une tenture s'écarta et un homme assis bascula en arrière pour me voir. « Vous désirez ?»« Monsieur Billard, s'il vous plaît. » Sans chercher, il me répondit. « 39, 6e étage. » En gravissant les marches, je songeais à la maîtresse de Billard. Pour chasser l'émoi qui me gagnait, je répétais « Elle est laide. Elle est laide. Elle est laide. » J'atteignis le dernier étage, tout essoufflé. Il me semblait que mon cœur changeait de place tellement il battait fort. Enfin, je frappai. La porte était mince, elle résonna. « Qui est là ?»«
Moi. »
Dire mon nom eût été plus simple, mais par timidité, je tentais de l'éviter. Mon propre nom dans ma bouche me cause toujours une impression étrange, surtout derrière une porte.
« Qui ?»
Je ne pouvais plus me taire.
« Bâton. »
Billard ouvrit la porte. J'aperçus une femme assise et dans la glace de l'armoire, la pièce tout entière se reflétant. Cette jeune fille était belle. Ses cheveux frisés se tordaient comme si la lumière de la lampe les eût brûlés. Abasourdi, je demeurais sur le seuil de la porte, prêt à me sauver. Elle se leva et vint à moi. Alors, une joie folle m'empêcha de parler. La sensation qu'un souffle chaud caressait ma figure me fit frissonner. Quoique peu exubérant, je tapai sur l'épaule de Billard. Malgré mon allégresse, je me sentis ridicule en ramenant la main. J'avais envie de rire, de danser, de chanter. La maîtresse de Billard boitait. La chambre était banale. Un Roumain, une fille galante, un employé eussent pu l'habiter. Des journaux sur lesquels on avait posé des casseroles, une brosse à dents debout dans un verre, des bouteilles encombraient la cheminée. Nina, prépare donc du café. La jeune fille alluma un poêle à pétrole taché de jaune d'œuf. Cette offre, en m'obligeant à rester, me combla d'aise. Sans doute pour ne pas avoir l'air de remarquer le silence qui devenait plus gênant à mesure que le temps s'écoulait, Billard cherchait un écrou dans une boîte à outils et sa maîtresse essuyait l'intérieur de quelques tasses avec le pouce. Quant à moi, je voulais parler, mais tout ce que je trouvais dénotait trop l'intention de mettre fin à une situation ridicule. Lorsqu'on ne me regardait pas, j'inspectais la chambre. La vapeur qui s'échappait du bec de la cafetière se tortillait. Les têtes d'oreiller sur le lit étaient noires au milieu. « Prends-tu du lait ?» Je répondis que cela m'était égal. La rapidité avec laquelle le café avait été préparé me contrariait. Je savais bien qu'après avoir bu, il faudrait que je m'en allasse. Nina nous servit en tenant le couvercle de la cafetière. Je remuais le café longuement, afin qu'une fois bu, il ne restât pas de sucre au fond de la tasse. Puis j'avalais de petites gorgées, en faisant attention de ne rien renverser pendant le trajet de la soucoupe à ma bouche. « Encore ?» demanda Nina. Quoique ma tasse fût petite, je refusai par politesse. Soudain, Billard posa sa main sur la mienne, sans raison. Ma première pensée fut de la retirer, le contact des hommes m'incommode, mais je n'en fis rien. « Écoute-moi, bâton. » Je le regardais. Des pores criblaient son nez. « Il faut que je te demande quelque chose. » La perspective d'être agréable à un camarade m'enchanta. « Veux-tu me rendre un service ?»«
Oui. » »« Oui. »
Je craignis qu'il ne me sollicitât d'une chose insignifiante ou bien trop importante. J'aime à rendre des services. De petits services, bien entendu, pour montrer ma bonté. « Prête-moi 50 francs. » Nos regards se rencontrèrent. La seconde d'hésitation qui, dans une telle circonstance, frappe chaque homme disparut, et d'une voix qu'il m'était permis de rendre solennelle, je dis « Je vous les prêterai. » J'étais heureux, plus d'inspirer de la reconnaissance que de prêter. La conversation allait reprendre. Maintenant, je ne gênais plus. Je pouvais rester jusqu'à minuit, revenir demain et après-demain et toujours. S'il m'avait emprunté 50 francs, c'était qu'il avait confiance en moi. L'argent de ma pension était dans ma poche. Pourtant, je ne donnais pas à Billard ce qu'il m'avait demandé. Je faisais semblant de ne plus y songer. Je sentais que plus j'attendrais, plus on ferait l'aimable. À présent, je jouais un rôle. À chacun de mes mouvements, on m'épiait, espérant que je sortirais mon portefeuille. Depuis des années, je n'avais eu une pareille importance. Un sourire accueillait chacune de mes paroles. On m'observait. On craignait que je n'oubliasse. Il faudrait être un saint pour résister à la tentation de prolonger cette joie. Ah, comme j'excuse les gens riches! Il commençait à être tard, je me levai. Billard était blanc. Il n'osait renouveler sa demande. J'affectais toujours de n'y plus penser tout en ne pensant qu'à cela. Nina, la lampe à la main, la tête dans l'ombre, ne bougeait pas. Subitement, j'eus l'impression qu'on avait compris mon manège. Alors, pour détourner les soupçons, je sortis mon portefeuille avec des gestes hâtifs et gauches. Que je suis distrait, j'oubliais. Je tendis 50 francs. « Merci, bâton. Je te les rendrai la semaine prochaine. »«
Ah, cela ne presse pas. »
dans l'escalier, le gaz était éteint. Les manchons avaient encore une rougeur de braise. À présent, les deux amants devaient regarder le billet en transparence comme une plaque photographique pour s'assurer qu'il était bon. L'impression d'avoir été berné me rendait nerveux. Billard m'avait à peine remercié. En réalité, il n'était pas pauvre. Il possédait une maîtresse, une armoire pleine de linge, de sucre, de café, de graisse. Il connaissait du monde. Dans ces conditions, pourquoi demander de l'argent à un malheureux? J'avais remarqué beaucoup d'objets dans sa chambre. En les portant au crédit municipal, il aurait facilement obtenu 50 francs. Dans la rue, j'eus un frisson. Le vent soufflait entre les maisons. Un réverbère se dressait au milieu d'un rond-pâle. Je fis quelques pas avec la clarté du bureau de l'hôtel dans les yeux. Des gouttes tombaient à terre, jamais l'une sur l'autre. La nuit, je dormis mal. À chaque instant, mes couvertures tombaient d'un côté du lit. Quand le froid qui montait le long de mes jambes m'éveillait, je tendais une main pour savoir où se trouvait le mur. À l'aube, ma fenêtre s'éclaira enfin. La table sortit doucement de l'ombre, les pieds d'abord. Le plafond devint carré. Je me levai, car mon lit était froid comme quand je fais la grasse matinée. Lorsqu'on a dormi entre deux draps blancs, on peut, au saut du lit, s'examiner dans une glace. Moi, le matin, avant de me regarder, je me lave. Dehors, le soleil dorait le dernier étage des maisons. Il ne piquait pas encore les yeux. L'air que je respirais me faisait frais dans les poumons, comme de la menthe. Un vent léger, sentant les lilas, leva les pans de mon pardessus, qui ressembla alors à une capote de soldat. J'avais envie de marcher. D'habitude, en sortant de chez moi, je me dirige vers la rue de Seine. Ce jour-là, j'eus pour but les fortifications. L'après-midi, ne sachant où aller, je rôdais autour de l'hôtel du Cantal. J'avais beau raisonner, penser qu'au cas où j'eusse rencontré Billard, nous n'aurions su quoi nous dire, je ne pouvais m'éloigner de ce quartier. Il était 3 heures. C'est le moment de la journée que je déteste le plus. Aucun des petits faits de la vie quotidienne ne l'égayait. Je passai 4 fois devant la porte de l'hôtel, gêné de faire demi-tour. C'est ridicule d'être gêné quand on fait demi-tour dans la rue. Je n'entrai pas. Je sentais que Billard me recevrait mal. Le jour qu'il m'avait demandé les 50 francs, j'aurais dû les donner tout de suite. Certainement, il m'en voulait de l'avoir fait attendre. Pourtant, je restais là, au coin de la rue, guettant l'hôtel. Je regardais les fenêtres des maisons depuis quelques minutes lorsque Billard, accompagné d'un homme que je ne connaissais pas, apparut sur le seuil de la porte. Je voulus courir à lui, mais comme il aurait supposé que je l'avais attendu plusieurs heures, je me retins. Jamais il n'eût voulu admettre que je venais d'arriver. Les gens ne croient pas au hasard, surtout dès que celui-ci est seul pour vous excuser. Billard avait un cache-col neuf. Ses cheveux étaient coupés dans la nuque. Les gestes qu'il faisait en parlant me semblaient ceux d'un étranger. J'ai remarqué qu'il en est toujours ainsi quand on aperçoit un ami avec un inconnu sans être vu. Je me cachai derrière une voiture. Billard n'aurait pu me reconnaître à mes pieds. Les deux hommes marchaient vite au milieu de la chaussée. Alors une idée bête et étrange traversa mon esprit. Je m'engageai dans une rue parallèle et je pris le pas gymnastique. Lorsque j'eus parcouru une centaine de mètres, je regagnai par un passage transversal la rue que je venais de quitter. Immobile devant une boutique, j'attendis. Pour étouffer le halètement de ma poitrine, je respirai du nez. Mes chaussettes retombaient sur les tiges de mes souliers. Les deux hommes approchaient. À entendre le claquement de leurs 4 semelles, on eût dit qu'un cheval marchait sur le trottoir. Dans quelques secondes, Billard et son compagnon seraient là. Je n'osais plus regarder la vitrine du magasin de peur que mes yeux ne rencontrassent ceux de Billard dans la glace. Un instant, j'eus l'intention de me retourner avec un air distrait, mais je craignis que cet air distrait ne parût pas sincère. D'ailleurs, Billard me verrait. La rue était étroite. Il s'imaginerait que je flânais et il me parlerait le premier. C'était ce que je désirais. Malheureusement, les deux hommes me dépassèrent sans m'adresser la parole. La certitude d'avoir été vu m'empêcha de recommencer cette comédie. Vraiment, je n'ai pas de chance. Personne ne s'intéresse à moi. On me considère comme un fou. Pourtant, je suis bon. Je suis généreux. Henri Billard était un goujat. Jamais il ne me rendrait les 50 francs. C'est toujours ainsi que le monde vous récompense. J'étais triste et furieux. L'impression que ma vie tout entière s'écoulerait dans la solitude et la pauvreté augmentait mon désespoir. Il était à peine 4 heures. Il fallait que j'attendisse au moins 2 heures avant d'aller au restaurant. Billard m'avait réellement froissé. Pourtant, je ne pouvais m'éloigner de son quartier. Je marchais vite dans les rues où je pensais avoir été remarqué, lentement dans celles où j'allais pour la première fois. Une femme qui boitait me fit songer à Nina. Il était impossible que celle-ci aimât Billard. Elle était trop jeune. À 18 ans, on ne cohabite pas avec un homme de 40 ans à moins d'être contraint de le faire. Petit à petit, la pensée d'aller chez Nina s'infiltra dans mon cerveau. Je m'en sentais le courage. Quand je suis seul avec une femme, ma timidité ne me gêne plus. J'ai l'impression que celle-ci me rend sympathique. Oui, je saurai parler à cette jeune fille. Je lui dirai du mal de Billard. Elle me comprendra. Elle le quittera. Et qui sait ? Peut-être m'aimera-t-elle ? À la vue de la boule blanche de l'hôtel du Cantal, j'eus la sensation que pour ne pas m'éveiller dans un beau rêve, je me forçais à dormir. Je pénétrai dans l'hôtel en essayant de me convaincre que je venais directement de chez moi, que j'étais en retard et qu'après tout, ma visite n'avait rien de bizarre. Je montais doucement l'escalier pour ne pas m'essouffler. Mes mains mouillées de sueur sifflaient sur la rampe. Au milieu du dernier étage, je m'arrêtai. La porte se serait ouverte, juste continuer mon chemin. Je n'aurais pas eu l'air louche des gens immobiles sur un palier. J'étais ému. Mes oreilles bourdonnaient comme quand on écoute la mer dans un coquillage. Ma chemise était mouillée sous les bras. Après avoir gravi les dernières marches, je frappai. Qui est là ? Bâton. Bâton. Ah, bien. Attendez, je fais ma toilette. Planté devant la porte comme un employé du gaz, j'écoutais les moindres bruits, craignant d'entendre la voix de Billard ou celle d'un inconnu. Il y avait de la lumière dans le trou de la serrure. Un autre que moi eût regardé. Je me retins. Il est vrai que la honte m'aurait tué si on m'avait surpris accroupi devant la porte. Nina apparut enfin. Lavée, les cheveux mouillés aux tempes, les sourcils collés, plus noirs, les lèvres fraîches, sans rides, elle souriait. Elle avait de belles dents, on ne voyait pas les gencives. Entrez, monsieur Bâton. Je vous dérange. Non. Elle aurait dû dire plusieurs fois non. Elle marcha devant moi, pas gênée de boiter. Quand elle s'arrêta, son corps redevint vertical. Est-ce que Monsieur Billard est là ? Il vient de sortir ? C'est ennuyeux. Attendez-le donc. Je m'installai au même endroit que la veille. C'est une de mes habitudes. Je m'assois toujours à la place que j'ai choisie la première fois. Ne vous retournez pas, Monsieur Bâton, il faut que je finisse de m'habiller.
Ce mot « habillé » me donna envie de prendre la jeune fille par la taille, sans doute parce qu'il me faisait penser à « déshabiller ». Je craignais que Billard n'arrivât. Qu'eût-il dit en me trouvant là, cependant que sa maîtresse se vêtait ? Il aurait été jaloux. Je perçus le petit cri des pressions, le clapotement d'une chemise propre que l'on déploie, et de temps en temps, le craquement d'une jointure d'os. Mes yeux, à force de loucher vers la jeune fille, me firent mal. Quand elle eut terminé sa toilette, elle vint s'asseoir en face de moi. « Comment allez-vous, monsieur Bâton ?»«
Assez bien. Et vous ?»
Elle ne répondit pas. Sans se soucier de moi, elle limait ses ongles. Comme je m'imaginais qu'une fois ses ongles limés, elle s'intéresserait à moi, je comptais les doigts qui n'avaient pas encore été soignés. Elle posa sa lime blanchie.
« Vous devez vous ennuyer, madame, quand Henri est absent. »«
Oui, assez. » Elle baissa sa jupe pour cacher sa jambe trop courte. « Vous devez être heureuse avec lui. »«
Oui. »
Les réponses de Nina me paraissaient peu enthousiastes. Je murmurai. « Je vous comprends. » Elle m'examina. Ses mains cessèrent de bouger. « Je vous comprends, » répétai-je. « Il vous ennuie. »
« Qui ?»« Billard. »
Il y eut un silence. Elle était immobile. Seuls ses yeux bougeaient, tous les deux en même temps. Maintenant, j'avais la certitude qu'elle n'aimait pas son amant. Elle était trop confuse quand je parlais de lui. Elle ne le défendait pas. Je me levai. Pour le premier entretien, il valait mieux ne pas brusquer les choses. En me reconduisant, elle me tendit la main avec franchise, sans plier le coude. Comme nous étions seuls, je gardai sa main dans la mienne. « Au revoir, mademoiselle. »«
Au revoir, monsieur. »
Il me restait une seconde pour fixer un rendez-vous avant que la porte se fermât. « Demain, à 3 heures !» balbutiai-je. Elle ne répondit pas. Sans regarder les marches, un peu comme une fée, je dévalai l'escalier. Quelques secondes après, j'étais dehors, rouge jusque dans la nuque. La respiration me manquait, comme quand il y a du vent. Je me regardais dans une glace. Une veine que je ne connaissais pas traversait mon front de haut en bas. J'aurais voulu retourner à l'hôtel et embrasser Nina. Elle m'aimait. Il fallait être timide comme je l'étais pour n'avoir su profiter de la situation. Sans doute, elle regrettait que je n'eusse pas été plus entreprenant. Ma mollesse avait dû l'agacer. Mais si elle était intelligente, elle me saurait gré de l'avoir respectée. Embrasser une personne que l'on connaît à peine est inconvenant. J'allais donc avoir une maîtresse qui m'aimerait et qui, pour se donner, ne me demanderait rien. Pour que la nuit me parût moins longue, je rentrai tard. Après avoir ôté ma veste, je m'accoudai à la fenêtre. L'air tiède me rappela les soirées de l'été précédent. La lune, pleine de taches d'eau, éclairait le bord d'un nuage. Puis je me couchai. Il fallait que je dormisse, sinon le matin j'aurais eu mauvaise mine. Mon visage n'est pas symétrique. Ma mâchoire est plus saillante à gauche. Quand je suis fatigué, cela se remarque davantage. Pourtant, je ne parvenais pas à fermer les yeux. Au petit jour seulement, je m'endormis. Je n'entendis pas le réveil des Lecoing, ni le balai de la concierge qui, chaque matin, heurte exprès ma porte. Quand je m'éveillais, le carré du soleil avait dépassé mon lit et tremblait sur le mur. Il était tard. Je me levai à la hâte, les yeux minces, une joue striée comme une feuille par un drap chiffonné. Dès que je fus habillé, je me brossai longuement. Puis je sortis. C'était une belle journée de printemps. Le soleil était au-dessus de ma tête. Je marchais sur mon ombre. Je possède un rasoir de sûreté, mais la lame coupe mal.
C'est pourquoi j'entrai chez un coiffeur. Le patron me rasa très bien. À 3 heures précises, la peau raide, la figure poudrée, je frappai à la porte de billard. Nina devait m'attendre. Les veines de mes mains étaient plus grosses que d'habitude. Personne ne répondit. Nina, qui était coquette, devait me faire languir. Je frappai, plus fort cette fois. L'oreille collée contre la porte, j'écoutais. De cette façon, on entend mieux. Aucun bruit ne troubla le silence. Alors je frappai avec le poing. Même silence. Nina n'était pas là. Je regardai par le trou de la serrure, puisqu'il n'y avait personne. Je vis le battant de la fenêtre, avec un rideau trop long. Nina ne m'avait pas attendu. Nina ne m'aimait pas. Soudain, une frayeur imbécile me prit. Si la jeune fille était morte, là, dans la chambre, on me soupçonnerait. Je descendis l'escalier à la hâte, sautant les 2 dernières marches de chaque étage. C'est ainsi que se terminèrent mes relations avec le couple Billard. Je ne suis plus retourné les voir, même pour leur demander les 50 francs. J'évite la place Saint-Michel. Pourtant, si Billard avait voulu, nous eussions été si heureux. Je cherche un ami. Je crois que je ne le trouverai jamais.
Mes amis, d'Emmanuel Bove. Extrait. Lu par Vincent Berger. Musique originale, Théo Boulanger. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Montage de texte et réalisation, Laure Egoroff. Mes amis d'Emmanuel Bove a fait l'objet d'une réédition en 2016 aux éditions L'Arbre Vengeur.